If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Oui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes!
3, 2, 1.
Ready for takeoff.
Let's go!
La bulle immobilière. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions et des réponses. Avec votre animateur, Jeff Morin, courtier immobilier commercial et multilogement. Et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Pour le meilleur show en immobilier sur la Rive-Sud et sur la Rive-Nord. Un contenu détaillé, c'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
969 FM.
Vous étiez à l'écoute du Jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Chez Nous vendons votre maison. Vous écoutez La bulle immobilière pour notre 11e saison. Puis j'ai toujours l'honneur de co-animer La bulle immobilière avec Sylvie Bougie. Comment ça va, Sylvie?
Hey, ça va super bien. Troisième saison, moi, en ta compagnie. Déjà, le temps passe vite.
Ça passe vraiment vite. Puis à toutes les fois que tu dis, hey, on est rendu à notre troisième saison, puis je suis comme, ben non, on vient juste de commencer, là.
Ouais, c'est ça, le début des amours. Hein?
Ah oui, c'est toujours comme ça. Mais tu sais, veux pas, c'est quand même... trois saisons, c'est environ 60-75 invités qu'on a passé quand même en entrevue.
Ouais.
C'est quand même beaucoup de monde. Puis sachez que la bulle immobilière est toujours à la recherche d'investisseurs, de success stories, de gens qui veulent partager leur histoire, des gens qui ont des expertises nichées aussi. Là, c'est vraiment l'occasion de pouvoir venir discuter des divers sujets avec nous. Parce que, tu sais, la bulle immobilière se veut une émission nichée sur l'immobilier. Puis on y va large, là. On y va dans les conventions d'actionnaires, on y va dans l'inspection, on y va dans le financement, on y va sur tous les volets possibles. Puis on a même eu la synergologie aussi pour pouvoir mieux interagir avec nos locataires, avec nos partenaires, comment déceler des signes. Puis ça a été une des entrevues coup de cœur aussi, là.
Effectivement, des sujets qui touchent l'entrepreneuriat, parce que souvent, c'est ça, on est investisseur immobilier, on est des entrepreneurs avant tout, effectivement. Et c'est un très bon point, Jeff, parce qu'en plus, on est l'automne, donc c'est le temps de planifier la saison, la prochaine saison bientôt. Donc, écrivez-nous, dans le fond, sur la page Facebook de La Bulle immobilière ou encore sur Instagram, ça vous tente de venir. Puis sachez, hein, je le répète, mais on fait toujours des pré-entrevues où on établit ensemble les sujets. Fait que si vous vous dites, toi, je suis pas sûr, je suis pertinent, je saurais pas trop quel sujet aborder, bien, il y a toujours vraiment une pré-entrevue. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe, on regardera avec vous les sujets. Moi, l'automne est assez occupé, je te dirais, là, on est encore de planification de fin d'année. Beaucoup de gens veulent des nouvelles compagnies de gestion pour janvier. Donc, nous, sachons pas de notre côté, chez Vigie Services Juridiques, en droit des affaires. Donc, faites-nous signe si vous voulez. On a quand même toujours de la place aussi pour des nouveaux clients. Puis toi, Jeff, achat-vente, cet automne, ça a été un début d'année, je pense, un peu plus tranquille. Là. Ça a-tu repris pas pire ou pas?
Ben, écoute, pour ceux qui travaillent, c'est toujours actif. Fait que, tu sais, je peux pas te dire que ça a été tranquille parce que notre équipe, on est toujours, toujours ultra actif. Puis, tu sais, d'un autre côté, c'est ça que tu t'attends aussi de ton courtier immobilier qui soit actif. Tu sais, s'il dit, ah, le marché est difficile, le marché est tough, je trouve ça dur l'immobilier. Ben, tu sais, ça se peut qu'il y ait un peu moins de vigueur pour vouloir vendre ta propriété aussi. Fait que, tu sais, pour nous, on est des gens qui sont all-in, on est des gens qui investissent énormément de sous pour réussir à réaliser les projets de nos clients, autant pour la vente que pour l'achat. Puis ça fait en sorte qu'on a des bassins de vendeurs incroyables, on a des bassins d'acheteurs incroyables, qui fait en sorte que souvent, on est capable de mettre en relation des gens parce qu'on a le bon réseau pour eux, puis ça fait en sorte qu'on est ultra performant. Fait que l'automne, toujours une grande période, généralement qui va être très active jusqu'au 15 décembre. Puis du 15 décembre au 15 janvier, là, c'est une période un peu plus relaxe, mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on est entre le 15 décembre et le 15 janvier qu'il n'y a pas de transactions immobilières. Combien de fois que ça m'est arrivé d'écrire des promesses d'achat un 24 décembre à la famille, attendez-moi, je vais descendre en beau sol, prends le portable, fais mon travail, etc. Combien de fois le 31 décembre, on remplit de la documentation, on fait des suivis avec des clients sur des dossiers en cours. Le 1er janvier, écoute, l'immobilier ne dort jamais. Puis on est les chirurgiens du téléphone, puis le chirurgien de la transaction immobilière, parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est d'avoir une personne qui répond au téléphone quand c'est le temps. Puis les délais sont souvent courts, fait qu'il faut s'assurer que ça réponde aux besoins.
C'est quoi, 38 jours qu'une maison est sur le marché, je pense, dans les nouvelles stats que j'ai entendu parler hier?
La réalité, c'est que c'est pas les stats de Québec. Les stats de Québec, on est plus à 60, 70 jours. On tangue à prolonger encore les délais parce que l'inventaire, on le ressent. Il y a de plus en plus de propriétés sur le marché, fait qu'il y a déjà une augmentation de 10-15 % de nombre de propriétés de plus sur le marché versus au printemps dernier. Fait que là, on commence à sentir qu'il y a de plus en plus de propriétés sur le marché. Puis, une des choses qui est importante à savoir, c'est quand on achète une propriété, il y a une inspection qui va se faire. Puis, l'inspecteur avec qui qu'on travaille, qui qu'on va référencer, lequel qu'on trouve bon, c'est quoi le rapport d'inspection, qu'est-ce qui va se passer au niveau du rapport d'inspection, ça devient un moment ultra inquiétant pour les acheteurs. Puis, tu sais, anxiogène aussi pour les vendeurs parce que là, ils font comme qu'est-ce qui va se passer s'ils trouvent quelque chose sur ma propriété, etc., etc. Puis nous, comme courtiers, on travaille en amont beaucoup. On vient travailler avec notre vendeur quand on fait la prise en charge de la vente de la propriété. Bien, on a déjà fait le tour de la propriété intérieure, extérieure. On a déjà soulevé certaines problématiques qui vont être soulevées aussi par l'inspecteur. Puis il y a plein d'affaires qu'on ne voit pas parce que, tu sais, notre rôle, c'est de vendre des propriétés, peut-être des spécialistes du marketing, qui fait en sorte que les inspecteurs viennent compléter, mais encore mieux, viennent expertiser la propriété pour donner un rapport juste. Puis les acheteurs, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir un bilan de santé sur la propriété. Est-ce qu'ils achètent une maison avec un cancer ou c'est une propriété en santé? Puis ça, pour eux autres, c'est super important, là. Fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir démystifier un peu l'inspection en bâtiment, mais on va aussi pouvoir creuser puis aller un peu plus deep dans l'inspection parce qu'on parle avec Michael Gauthier, qui est ingénieur aussi, et inspecteur en bâtiment chez Groupe Expert Québec, puis co-franchiseur aussi de Groupe Expert Québec. Bienvenue avec nous à la bulle immobilière.
Bien, merci beaucoup à vous deux.
Bien, merci à toi. Puis, tu sais, dans le fond, j'aimerais ça, Michael, que tu puisses nous parler un peu de ton parcours, ton background, les études. Qu'est-ce qui t'a amené finalement aujourd'hui dans l'inspection puis dans l'ingénierie du bâtiment?
Yes, absolument. Moi, il faut savoir qu'au départ, le bâtiment, j'y connaissais rien. Ça fait, j'ai été gradué en génie à l'Université de Sherbrooke. Ça remonte à plus de 10 ans maintenant. C'est une formation en génie mécanique que j'ai suivie là-bas. Puis, j'étais zéro puis une barre en bâtiment. Suite à mes études, j'ai fait plusieurs firmes en ingénierie, ou encore une fois, aucun lien avec le bâtiment en soi. Puis, j'ai investi dans certaines propriétés. J'avais un certain volet investisseur en moi. J'ai fait quelques flips de maisons, acheté des multiplex, les optimiser, les revendre. Puis, dans tout qui dit souvent projet immobilier, bien, dit souvent devoir faire affaire avec des entrepreneurs, entre autres, pour venir reniper les buildings, les optimiser, pour pouvoir avoir des plus-values. Puis, de fil en aiguille comme ça, à un moment donné, je me suis senti un peu lésé par certains entrepreneurs. J'avais vraiment l'impression de me faire avoir sur certains points. C'était comme par exemple, je me faisais dire que tel item, c'était urgent de le faire refaire rapidement, puis c'était le gros prix. Mais là, à quel point ça urgeait? Qu'est-ce qui arrive si j'attends un peu plus longtemps? Fait que j'avais pas toutes les informations, j'avais toujours l'impression de me faire avoir. Puis aussi, des fois, en achat de bâtiments, même si je faisais inspecter, avec ce que l'inspecteur me disait, puis avec le rapport que je lisais, je sentais toujours qu'il manquait un petit peu d'informations. Oui, je savais qu'est-ce qu'il me disait. Bien, ça, c'est à corriger, à prioriser. Mais OK, j'aimerais en savoir plus. Pourquoi il faut que je fasse ça maintenant? Qu'est-ce qui arrive si j'attends, disons, dans 5 ans? C'est quoi les risques? J'avais toujours un petit goût amer relié à ça. Puis à un moment donné, bien, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, je me suis vraiment frustré là-dessus. Puis là, je me suis dit, OK, je vais manger mes croûtes, puis je vais retourner aux études, puis je vais me former bien comme du monde dans le bâtiment. Comme ça, je vais être certain de ne plus me faire jamais avoir là-dessus, pour ne pas dire le mot.
Ouais, ouais,
puis j'ai vraiment mis les bouchées doubles. Fait que ce que j'ai fait, je me suis reviré de bord, je me suis inscrit à une formation en inspection de bâtiment collégial. Suite à ça, de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer Jean, qui est le franchiseur principal chez Groupe Expert Québec, qui est devenu mon mentor à travers ça. Donc, lui, il a un bagage incroyable en bâtiment. Il m'a mentoré durant tout ce cheminement-là. J'ai commencé à écouter des émissions à la télé. C'est Mike Holmes, qui est très connu, là, en inspection de bâtiments, en rénovation, etc. J'ai déniché plusieurs rapports d'inspection déjà faits que je lisais comme lecture de chevet à chaque soir pour voir les...
Chacun nos lectures.
Hein? Ouais. Il y en a que c'est des conventions d'actionnaires, il y en a que c'est des rapports d'inspection.
Mais pas au chevet, moi, tu vois. On voit qu'il est passionné. Mais moi, ce que j'entends à date, là, que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as un background, tu sais, justement, d'achat-vente, un grand intérêt, une curiosité. Puis, tu sais, je pense que ton background d'ingénieur fait que tu dois être très pointilleux, minutieux. Tu sais, le souci du détail que tu dis, ouais, mais c'est quoi le risque réel que j'ai? Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment une belle plus-value après pour tes clients. Là. C'est-à-dire que ce souci du détail-là, cette rigueur-là, tu l'as pour toi, mais tu l'as pour les autres aussi. Là. Je trouve ça vraiment bien. Mais tu peux continuer.
Oui.
J'ai coupé ton élan.
Oui, oui, c'est ça.
Puis en même temps, moi, je vais rentrer en introduction. Ouais. On parlait justement qu'il a voulu se faire mentorer par Jean Duguay.
Ouais.
Puis, tu sais, Jean Duguay, moi, j'avais rencontré justement dans la vente de sa propriété. Je représentais des acheteurs. À l'époque, il y avait l'entreprise, l'inspection thermique JD. Puis, tu sais, ça a été une des premières entreprises que j'ai commencé à référencer, moi, comme courtier immobilier. Puis on se rappelle que j'ai commencé en 2011. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'avais commencé à référencer cette entreprise-là parce qu'il faisait de l'inspection thermique. C'était un précurseur à l'époque,
oui,
là, en 2011.
Il a fait la formation aux États-Unis, exact. Jean Duguay, puis a amené ça au Québec.
Puis, je vous le confirme, c'est vraiment lui qui a amené ça, cette notion-là, dans le bâtiment. Ça existait avant, disons, pour des expertises électriques, là, mais dans le bâtiment vraiment résidentiel, dans les inspections, c'est lui qui a amené ça là-dedans.
Puis, tu sais, par la suite, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à le référencer, passer mes dossiers d'inspection avec ça, etc. Puis, tu sais, le fait d'aller sur une expertise complémentaire, tu sais, parce que les inspections, ils ont souvent plus, puis là, excuse-moi de dire ça, mais ils ont souvent plus de limitations que de conclusions dans le rapport. Ils vont souvent référencer à des professionnels parce que, tu sais, l'objectif, c'est de soumettre les éléments problématiques sur la propriété, non pas de corriger les éléments, non pas de démolir des murs pour voir si la jonction en arrière est correcte aussi. C'est des inspections visuelles, ça a sa limitation, puis il faut le comprendre aussi. Sauf que d'un autre côté, nous, on est vraiment... Puis moi, qu'est-ce que j'aimais, c'est qu'on rajoutait une couche de vérification supplémentaire qui était non visible à l'œil, fait qu'on amenait des outils pour nous permettre de faire ça, puis je pense que vous continuez à le faire encore. Là.
Oui, absolument. Ça fait partie des outils qu'on utilise. Il y en a une vaste gamme, là, des humidimètres, à béton, des humidimètres pour d'autres types de matériaux, des drones, etc. Faut savoir qu'il n'y a pas encore de rayon X qui existe là, pour voir à travers les murs. Là. Donc, comme tu le dis, on est plus là comme généraliste, les inspecteurs à bâtiment. Il faut se comparer beaucoup à des médecins généralistes, en fait.
Exact, 100%.
Puis quand il n'est pas à l'aise, lui, on s'entend, il ne connaît pas tous les domaines. Quand il n'est pas à l'aise à donner une réponse, bien, il va dire, OK, va voir tel spécialiste, puis lui, il va dire qu'est-ce qu'il y en a. C'est la même chose adaptée au bâtiment.
Puis il faut connaître nos limites aussi. Il ne faut pas faire en sorte de devenir un spécialiste parce qu'on est un généraliste aussi. Fait que, il faut connaître ses limitations aussi, puis il faut connaître ses limites. Puis surtout, donner les bons conseils puis les orienter sur les bonnes personnes. Tu sais, ça, c'est vraiment le point de base. Puis, question rapide dans ton parcours. Tu disais faire de l'investissement immobilier. Tu as fait de l'optimisation d'immeubles à revenus. C'était quoi ton premier investissement?
Dans le temps, je résidais à Sherbrooke. Donc, c'était à Sherbrooke même. C'était un sixplex que j'ai acheté.
Quand même, premier investissement, six logements quand même.
Ouais.
Pour l'optimisation-revente?
Oui. Ben, au départ, je ne savais pas trop quoi faire avec. Là, je voulais le garder un certain temps. À un moment donné, j'ai déménagé à Québec. Ça fait 5 ans que je suis à Québec. Donc, c'est pas mal dans cette transition-là que j'ai décidé. C'était rendu trop lourd, là, le gérer. Puis même si j'avais un gestionnaire sur place, j'ai décidé de vendre ça à un moment donné. Là.
Quand même. Puis, tu sais, la niche que tu préfères dans l'investissement immobilier, est-ce que tu préfères plus la maison unifamiliale, le duplex, triplex, quadruplex, le 5 logements plus, le commercial, multi? C'est à quelle place tu te sens?
Honnêtement, là, je suis plus à l'aise, c'est le plus passif possible. Donc, actuellement, la seule chose que je fais là-dedans maintenant, c'est un peu de prêt privé, puis je mets de l'argent dans des potes immobiliers qu'on achète des parcs ensemble, là, mais je me dissocie de toute gestion ou prise de décision possible avec un projet. Là.
Puis ça, pour vrai, ça a des impacts majeurs. Puis je te comprends. Moi, c'était gérer l'humain. Là. Écoute, je suis vraiment mauvais à cette partie-là. Les locataires, là, j'étais comme, ça se peut pas qu'ils me disent des affaires comme ça. C'est impossible. Tu sais, j'étais comme, ouch, maudit, ça se peut pas. Puis finalement, ça arrive tout le temps. Puis là, tu sais, comme, ah non, mais crime. Mais c'est quand même le fun. Puis tu sais, le fait de faire de l'investissement immobilier, tu as vu plein d'histoires. Tu sais, en plus, tu as optimisé tes immeubles. Fait que tu as vu plein d'histoires d'horreur aussi qui doivent t'avoir arrivé. Tu as fait inspecter les propriétés. Finalement, tu sais, une problématique qui n'est pas soulevée, que là, tu te ramènes avec une patate chaude. De quelle façon qu'on vient corriger la patate chaude? Fait que tu sais, toi, tu l'as vécu du côté acheteur, du côté investisseur. Fait que quand ça arrive avec des autres investisseurs ou des clients que tu accompagnes, mais tu es capable aussi de leur dire, écoute, j'ai passé par là. C'est sûr que ça a l'air gros, mais sache que ça se fait bien. Puis, tu sais, une des choses qu'il faut savoir, tout le monde, sur l'inspection en bâtiment, tout se répare. Tout. Il n'y a pas rien qui ne se répare pas. Ça a un coût, on va se le dire. Sauf que tout se répare. Fait que, tu sais, il faut faire attention aussi, puis il faut faire la part des choses. On ne veut pas nécessairement acheter une propriété qui semble être correcte, puis finalement, il y a 100 000 de réparations à mettre dessus. On ne veut pas avoir ça. Sauf que si jamais c'était le cas, bien, il y a des solutions, puis il y a des corrections qui peuvent se faire. Ouais. Ça ne veut pas dire nécessairement, c'est toujours un grand coup. Là.
Ce qui est intéressant aussi, Michael, c'est que tu as ton expérience, oui, vécue d'investisseur, mais vous faites aussi de l'expertise hein, dans vos services. Fait que j'imagine des cas, vous envoyez quasiment tous les jours aussi, des cas catastrophiques un peu, j'imagine, parce que quand c'est rendu en cours, c'est justement parce que c'est des projets qui coûtent trop cher. Fait que c'est un beau background. C'est quoi un peu justement tous les services que vous offrez là, chez Groupe Expert Québec?
Oui, en somme, il y a l'inspection conventionnelle en bâtiment, il y a l'investigation, l'expertise et l'ingénierie de bâtiment. Peut-être juste pour préciser la différence entre l'expertise et l'investigation, c'est quand monsieur, madame, tout le monde a un problème quelconque sur la propriété, comme par exemple, il voit des traces de moisissure sur un mur, savoir d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui se passe avec ça, il y a tout un risque lié à ça, puis qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ou encore d'infiltration d'eau qui provient d'une fenêtre ou du sous-sol, peu importe. Donc, il veut savoir d'où est-ce que ça vient, le risque, puis qu'est-ce qu'il doit faire avec ça. Bien, on est vraiment là pour ça. Donc, le but de notre visite, c'est on fouille, on creuse, on s'entend que c'est exhaustif rendu là. On n'est plus généraliste. Il faut ouvrir des murs pour voir vraiment comment c'est assemblé ensemble, puis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui provoque cet état-là. Puis on vient après ça donner des recommandations. Comment corriger ça? Oui.
Puis tu sais, pour savoir, le Groupe Expert Québec, ça fait combien d'années que c'est en place? Quelle région vous desservez? Là? C'est quand même des points qui sont quand même importants à savoir. Là.
Oui, absolument. Ça, c'est les gens qui amenaient ça. Ça fait environ 5-6 ans qu'ils fondaient ça. Donc, c'est un système qui est sous franchise. Donc, il faut comprendre qu'on est chacun des franchisés et on a des territoires dédiés. Maintenant, on couvre l'ensemble du territoire de Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. On a Chaudière-Appalaches, on a Centre du Québec, Drummondville, Victoriaville. On a l'Estrie, on a le Saguenay. Puis, on dessert aussi la Rive-Sud de Montréal.
Quand même. Fait qu'écoute, ça commence à être grand là, comme territoire. Vous savez, la bulle immobilière est toujours à la recherche de commanditaires pour notre émission. Et bientôt, nous aurons un magazine, la bulle immobilière. Ça va être incroyable. Pour vrai, là, on est en train de finaliser nos premières esquisses. On a vraiment hâte de mettre ça de l'avant. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations pour devenir commanditaire ou vous aimeriez avoir votre article ou votre compagnie à l'intérieur de la bulle immobilière, c'est disponible. Vous me contactez directement, Jean-François Morin, sur info à commercial jean-françois-morin.ca ou sinon sur mon cellulaire 418-801-8011. Nos émissions sont souvent, puis même toujours disponibles en podcast sur nos sites jean-françois-morin.ca, vigiquebec.com, puis sur toutes nos plateformes de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Balados.
CJMD 96.9. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc.
Boutique.chaudièreappalaches.com. CJMD 96.9, l'alternative radio.
OK, salut tout le monde, c'est Philippe Fému pour votre télé-réalité Occupation Story.
D'ailleurs, t'as le goût de changement?
Yeah!
CJMD.
Oh yeah!
96.9.
Stay tuned right after this.
Chérie.
Hein?
Chérie.
Quoi?
Regarde ça. Ça a l'air que si tu mets une patte de lièvre au-dessus du foyer de la maison,
hein?
Elle va se vendre deux fois le prix qu'on a demandé, puis on n'aura même pas besoin d'agent.
OK.
Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres,
OK, ouais.
On va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça?
C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais Sam, je t'avais dit d'écouter à la bulle à CGMD, non?
De retour à la bulle immobilière.
Vous êtes de retour à la bulle immobilière, toujours avec Jean-François Morin et mon acolyte Sylvie Bougie. Vous savez, je suis membre du réseau immobilier à titre d'administrateur. Il y a plusieurs formations de réseautage, de déjeuner, de 5 à 7, un colloque et Alouette. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment cool, les activités. Vous êtes une personne qui est impliquée dans l'immobilier parce que vous écoutez la bulle immobilière, il faut être au déjeuner, il faut venir réseauter. C'est toujours intéressant. Il y a une activité justement le 23 novembre prochain. Il faut être présent. C'est généralement, il y a une activité mensuelle. Il y a des 5 à 7. Puis on s'attend d'avoir Luc Poirier quand même. Là, ça va être incroyable pour février prochain. On est aujourd'hui avec Michael Gauthier, ingénieur et inspecteur en bâtiment de Groupe Expert Québec. On a parlé souvent de l'inspection de long en large. On a parlé beaucoup d'informations par rapport à l'expertise qu'on peut faire sur une propriété, mais j'aimerais qu'on aborde un petit peu plus le volet ingénierie, puis à quel moment que l'ingénierie va arriver dans le rapport d'inspection, puis j'aimerais ça qu'on puisse avoir une ligne directrice sur c'est quoi les services que Groupe Expert Québec peut offrir à des gens au niveau de l'ingénierie.
Oui, en fait, ça peut arriver très rapidement durant l'inspection. Comme je te donne un exemple, souvent les gens quand ils magasinent une maison puis ils vont venir visiter, bien, ils essaient déjà de se projeter les futurs projets qu'ils veulent faire avec la maison, dont notamment faire des fameuses aires ouvertes, qui est très à la mode. Qui dit aires ouvertes, qui dit bien, abattre des murs. Donc, souvent, ils apprécient savoir quel mur c'est facile de retirer et s'il faut porter des solidifications supplémentaires avant de les retirer. Donc, souvent même... Durant l'inspection, c'est un de nos ingénieurs qui s'en occupe, bien, on peut déjà leur dire durant l'inspection, tel mur, il n'y a pas de problème à le retirer, sinon bien, il va falloir prévoir tel élément structurel en conséquence pour le remplacer. Donc, dans un mandat subséquent, c'est possible pour nous de réaliser les plans, les devis pour les modifications structurelles.
Puis tu sais, question comme ça, y a-t-il des indicateurs qu'on peut savoir rapidement si c'est un mur porteur ou pas? Tu sais, par exemple... je vais en donner un rapide. Les divisions entre deux chambres. Généralement, ça va être des divisions qui vont être faites avec des 2x3 plus le gypse. Ce serait surprenant que ça devienne un mur porteur.
Honnêtement, avec toutes les expériences que j'ai vécues, maintenant, je ne me fie plus jamais à la constitution des murs. Savoir, c'est-tu en 2x3, en 2x4, en 2x6, c'est-tu au 12 pouces, au 16 pouces, entremise, pas d'entremise, je ne me fie plus à ça. Je ne me fie uniquement à ce qui est au-dessus du mur. Parce que c'est là que les charges proviennent ultimement, ils viennent du dessus du mur. Donc, si on est, par exemple, un bungalow des années 70, qu'on a un rez-de-chaussée, puis la structure de toit, la charpente de toit est au-dessus, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller par la trappe d'accès, se rendre dans l'entretoit, puis de regarder, bien, les fermes de toit, first, sont dans quel sens? S'ils sont dans le sens parallèle du mur qu'on veut retirer, déjà, ça l'augure assez bien pour pouvoir le retirer. S'ils sont dans le sens contraire, il y a quelques trucs, là, mais déjà là, si on sait qu'il y a des, on va dire, les jonctions dans tous les membres des fermes de toit, sont avec des goussets métalliques, donc des plaques métalliques qui assurent les jonctions. Déjà, on a des fermes qui sont préfabriquées en usine, donc qui ont été, pour la plupart du temps, conçues dès le départ pour être autoportants. Ce qui veut dire que la charge est uniquement sur le pourtour de la maison et non sur les murs dans le centre. Donc, souvent, ça nous permet de retirer les murs.
Puis, tu sais, il faut faire attention tout le temps. Puis, c'est sûr que ça se passe toujours dans l'entretoit, mais tu sais, il y a plusieurs bungalows qui ont été construits dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80 aussi, puis selon différents formats. Tu sais, il y a des corridors, des fois, qu'on va voir dans un bungalow qu'on va être au sous-sol, puis il va avoir deux poutres sur chacune des portées du corridor, puis il va avoir des colonnes de soutènement sur tout le long. Puis là, ben, tu sais, dans le fond, on va avoir les traverses de solives qui vont venir s'appuyer puis qui vont venir s'entrecroiser au centre du corridor. Ben, tu sais, c'est pas la même structure que si jamais on a juste une poutre centrale avec des colonnes de soutènement. Puis encore là, quand on vient dire des fermes de toit qui viennent s'appuyer sur l'externe, ben, tu sais, ils viennent s'appuyer sur les murs extérieurs. Fait que ça veut dire que l'intérieur, le centre de la ferme de toit, ben, est déjà auto-supporté de par les travers, je ne sais pas comment qu'on... les triangles à l'intérieur.
Oui, exactement, la géométrie, on appelle ça des fermes triangulées, donc la géométrie, puis les goussets qui assurent la bonne jonction avec les éléments, ça fait en sorte de bien distribuer les charges vers les extrémités des fermes qui sont appuyées sur les murs extérieurs du bâtiment.
Quand même.
Les services d'ingénierie aussi, on a parlé là, dans le cadre de l'inspection où un client se pose la question, il vous le demande, vous le faites, mais aussi, moi, je peux vous appeler demain matin, je veux agrandir ma maison, je veux savoir si c'est possible de le faire. Comment ça fonctionne exactement à ce niveau-là, là, hors inspection, mettons?
Oui, absolument. Demain matin, monsieur, madame, tout le monde qui possède une maison, un bâtiment multiplex, résidentiel, peu importe, ont un projet d'agrandissement, de retirer des murs, savoir si on est porteur ou non, faire concevoir une nouvelle dalle structurelle parce qu'ils veulent se faire aménager un nouveau garage excavé à côté de la maison. Ben, c'est tout le genre d'éléments qu'on peut on fait une visite, on évalue, ensuite on est capable de concevoir l'élément avec les plans et les devis, puis ensuite tout. C'est comme un livre de recettes qu'il reçoit. Donc, une fois qu'il a ça en main, ils peuvent décider de l'entreprendre lui-même s'il pense qu'il a les connaissances ou il l'offre, il donne à son entrepreneur pour qu'il puisse réaliser son projet.
Puis, tu sais, il faut savoir que, tu sais, peu importe les travaux qu'on va faire dans une propriété, si jamais vous venez jouer à la structure de la propriété puis que vous n'avez pas respecté le code, vous devenez quand même responsable des travaux que vous faites. Fait que même si vous vendez sans garantie légale de qualité puis vous avez non suivi les normes de pratique pour faire des travaux, la garantie pourrait se réappliquer parce que nul n'est tenu d'ignorer la loi. Puis, tu sais, pareil pour le code du bâtiment, fait que ça fait en sorte que vous pouvez avoir des grands frais qui peuvent être occasionnés si vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites aussi. Puis, c'est des choses qui sont quand même ultra importantes. Puis, vous devez, puis on va en parler tantôt de la contre-expertise, mais vous devez arriver souvent dans des dossiers où ce que ça, le mal a déjà été fait, là.
Exactement. Moi, je dis souvent qu'un des pires ennemis du bâtiment, ben, c'est l'homme. Parce que, je donne un exemple.
Il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
C'est un petit peu ça.
En fait, c'était l'eau.
Je prends des maisons centenaires, par exemple. Ceux-là qui ont eu très peu de modifications avec les années, ben, pour la plupart du temps, ils se tiennent encore très bien debout. Malgré que des maisons qui sont centenaires, puis il y a eu plusieurs propriétaires avec le temps, puis chacun a mis son petit grain de sel parce qu'il pensait bien faire en faisant telle modification, mais finalement, il ne savait pas du tout qu'est-ce qu'il faisait, bien, ça peut causer de très grands préjudices. Donc, c'est beaucoup l'homme, malheureusement, qui...
Oui. Mais ça, je disais l'eau aussi, je pense, hein, parce que l'eau, c'est l'humidité, c'est les infiltrations, c'est un gros danger quand même. Moi, j'avais dans la tête, c'était l'eau là, qui était le danger le plus important.
C'est l'autre gros. L'eau est là et l'homme. J'y mettrais pas mal l'équivalent.
Puis tu sais, qu'est-ce qu'on veut s'assurer, c'est toujours de regarder, tu sais, quand que la goutte d'eau tombe sur le toit, mais de quelle façon que la goutte d'eau va réagir puis va descendre. Puis tu sais, après ça, un coup que la goutte d'eau est arrêtée, bien, de quelle façon qu'elle va remonter avec le froid et la glace. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'il faut être en mesure de comprendre. D'où le pourquoi que, tu sais, on vient toujours, tu sais, venir... puis là, c'est parce que je cherche le mot que je le trouverai pas, là, mais on vient toujours s'assurer que quand une goutte d'eau descend sur un mur, par exemple, sur un pare-vapeur, bien, le pare-vapeur va être par-dessus celui-là qui est en dessous pour être sûr que la goutte d'eau continue toujours à descendre vers le sol.
Exact. Faut penser en goutte d'eau. C'est vraiment ça le terme.
Puis, tu sais, l'autre chose, c'est qu'il y a des trucs aussi au niveau de l'ingénierie où il y a des choses qui sont impossibles à modifier.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Puis, dans le sens que quand vous avez une charge, par exemple, dans un cottage, vous avez une colonne qui va passer au rez-de-chaussée, qui va passer au sous-sol, bien, cette colonne-là, tu ne peux pas la prendre puis la tasser parce que les charges doivent toujours se descendre une sur l'autre. Oui, généralement, on pourrait tricher un petit peu, mais majoritairement, on va préférer que les charges soient toujours contiguës une sur l'autre.
Majoritairement, oui, c'est vrai, c'est le cas. Dans certains cas, en faisant des calculs de validation, souvent, c'est possible de décaler légèrement de part et d'autre dans bien des cas. Si vraiment la personne insiste et elle veut du tout l'avoir dans ses jambes, la colonne, là, ben là, il y a certaines modifications qu'on peut mettre en place pour la balayer. Là.
Exact, de mettre des LVL, de changer la structure, de venir se faire un appui, etc. Puis, tu sais, des fois, il y a des bungalows qu'on va rentrer. Puis, tu sais, dans un bungalow traditionnel, ben il faut savoir que les solives sont toujours sur les murs étroits là, en s'en allant vers le centre. Puis, il y a des fois qu'il y a des escaliers qui sont centraux. Tu sais, on rouvre la porte, puis il y a un escalier qui descend tout de suite. Puis, tu sais, ça vient fermer les espaces, justement, air ouverte, etc. Parce que là, on a un escalier où ce qu'on doit faire le contour, soit d'un côté, soit de l'autre. Puis des fois, de prendre un escalier, puis de faire des travaux, puis de reprendre l'escalier, puis de venir la déplacer sur le même sens des solives, des fois, ça devient quand même des travaux plus simples de configuration sans nécessairement engager des frais extraordinaires. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire, tout dépendamment aussi de la structure, de l'évaluation, etc. Mais généralement, c'est des travaux plutôt simples.
Tout à fait d'accord. C'est le genre de choses, de cues qu'on peut donner aux gens disons, lors d'une inspection. Ouais.
Y a-t-il d'autres conseils qui reviennent le plus souvent là, à vos clients au niveau de l'optimisation? Parce que là, Jeff vient de donner un bon exemple, mais c'est quoi qui revient le plus souvent, mettons, comme conseil?
Clairement, les murs porteurs.
Oui, de les respecter, de faire attention. Mais je veux dire, au niveau de l'optimisation, je sais pas.
De l'espace.
De l'espace, oui.
Bien, tu sais, ça va toujours être une question de c'est quoi les portées puis c'est quoi les distances qu'on est capable de respecter avec la structure du bâtiment. Parce que, tu sais, veux pas un 2x4, un 2x6, un 2x8, un 2x12, ça a sa limite de charge, puis ça a sa limite de portée aussi. Puis ça veut pas dire nécessairement parce que tu le doubles que tu vas avoir deux fois plus de force puis deux fois plus de longueur aussi. Puis tu sais, c'est tout aussi les monsieur bricoles qui viennent faire des travaux ou ce que les monsieur bricoles vont venir amputer les composantes du bâtiment, vont venir percer des trous parce que là, ils voulaient faire une salle de bain. Puis là, finalement, il a besoin de 4 pouces de plus pour mettre sa douche pour que ça rentre. Vient botter les solives de plancher de l'étage supérieur. Vient affaiblir les structures du plancher. C'est des choses qu'on voit régulièrement. Puis c'est des choses qui peuvent se faire. C'est des travaux qui peuvent être modifiés, mais tu peux pas modifier ça sans nécessairement avoir un expert à l'externe. Puis nous, on est toujours, la bulle immobilière, à vouloir recommander toujours les gens. Prenez un expert, prenez quelqu'un qui s'y connaît, puis faites-le pas par vous-même, parce que des fois, c'est des désastres totaux qui se font par rapport à ça. Puis ça doit être des cas déjà vus, déjà vécus.
Écoute, Jeff, j'ai justement des dossiers de contre-expertise ces temps-ci là-dessus. Là, des clients qui ont acheté récemment des maisons dans l'intention de faire des bonnes rénovations, donc qui ouvrent plusieurs murs, on s'entend, ils décloisonnent les murs. Qui dit décloisonner des murs, ben dit bien souvent arriver sur des surprises. Donc là, c'est le couple. Ils ont monté des lettres de dénonciation pas possibles contre mes clients. Écoute, il y a des points et des points n'en plus finir sur il y a des non-conformités, des choses qui n'ont pas été bien faites. Mais c'est vraiment dans ces moments-là qu'on voit, qu'on est en mesure de voir plus un petit défaut de la maison, notamment, parce que tu as mis un bon point tantôt, les fameuses solives qui ont été entaillées pour des conduits de plomberie, que ça arrive très souvent.
Puis, tu sais, il y a des endroits pour le faire aussi. Tu sais, on peut le faire directement au centre, tout dépendamment aussi de l'épaisseur, tout dépendamment des composantes. Puis, tu sais, on en a maintenant des poutrelles en I à jourer. Fait que là, tu sais, l'espace est beaucoup plus facilitant aussi pour les conduits, la plomberie, l'électricité, etc. Mais on a aussi des bungalows des années 70 où c'était des pièces complètes aussi, des composantes pleines qui faisaient en sorte qu'on n'avait pas le choix de percer. Fait que là, si tu perces trop haut, ça cause une problématique. Si tu perces trop bas, ça crée une problématique aussi. Fait qu'il y a des distances à respecter. Puis souvent, le monsieur bricole, il prend pas son tape à mesurer pour regarder, voir si ça fit. Lui, c'est l'espace qu'il a. Fait que c'est là qu'il passe, puis c'est tout. Mais tu sais, ça vient créer des désastres majeurs par rapport à ça. Puis, tu sais, qui parle d'ingénierie, parle d'investigation aussi. On parlait tantôt de l'eau. L'eau, c'est un des dommages ultra importants. Puis tu sais, du moment où ce que, dans ta réflexion avec un bâtiment, ta réflexion est toujours de faire attention, d'éloigner l'eau le plus possible de ta propriété, que ta toiture soit toujours en santé, que tes gouttières soient pas collées sur tes drains, que tu sais, tu as des tuyaux flexibles pour enlever ton eau le plus loin possible de ton bâtiment, que ta surface de sol est toujours en pente pour s'en aller vers l'extérieur. Tu sais, tu te donnes déjà là, 80 % de chances d'éviter d'avoir des problématiques. Ça viendra pas briser ou tu sais, de pénaliser la situation, est-ce qu'il peut y avoir une situation problématique où est-ce qu'il y a une fissure puis il y a de l'eau qui va rentrer. Mais il faut se donner des chances aussi sur l'entretien de notre bâtiment puis de s'assurer d'éloigner l'eau le plus possible. Puis ça, ça doit faire partie, je dois dire, sûrement 80 % de vos dossiers, là, les investigations pour l'eau, la pourriture, la moisissure, etc. Ça doit être des gros dossiers?
Très régulièrement. On s'entend qu'il y a des saisons plus portées à ça, comme le printemps avec la fonte des neiges, là, mais tout au long de l'année. Là, en hiver, ça va être beaucoup des histoires de condensation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est mouillé à certains endroits? Pourquoi ça condense? Fait que c'est un petit peu différent, mais ça revient toujours au même. Là, des histoires d'infiltration, de condensation et de prolifération de moisissures là, tout au long de l'année. Là, il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Là. Donc, on est là pour... Puis souvent, là, il n'y a pas des gros problèmes. C'est de former les gens, de donner des informations pour leur dire comment bien gérer leur environnement extérieur. Donc, on fait de la sensibilisation puis on forme beaucoup les gens, mm-hmm. ce qui règle beaucoup de problèmes. Là.
C'est ça qui est tellement important parce que, comme on dit, on pense bien faire. Parfois, moi, j'ai justement un condo que... on sentait qu'il y avait, je pense que c'était comme de l'humidité ou je sais pas quoi, mais en tout cas, bref, le syndicat de copropriété avait pris l'initiative d'ouvrir comme l'entretoit, puis laisser aérer en pensant à faire la bonne chose. Puis là, on avait de la misère à trouver quelqu'un qui vienne nous voir puis pour soumissionner et tout. Puis quand la personne, on a finalement trouvé quelqu'un qui est venu expertiser un peu plus pour se rendre compte que c'est ça. Puis il faisait non de la tête, Michael, pendant que je parle, mais il nous a dit non, faites pas ça, faut garder ça fermé. Fait que tu sais, la personne pense bien faire, tu sais, fait que faut pas jouer aux experts nous-mêmes, là, tu sais.
Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein?
Ouais, 100%. Puis, tu sais, dans les points super intéressants puis super importants, c'est que, selon moi, ça doit être des éléments qui sont boudés par des grandes firmes. Parce que, tu sais, nous, quand on a des ingénieurs ou qu'on a besoin d'avoir des expertises suivant une inspection, suivant une problématique, etc., bien, de trouver quelqu'un qui est prêt à mettre son seau sur les travaux puis qui est prêt à dire voici qu'est-ce qu'il y en est au niveau des travaux puis de quelle façon que tu pourrais améliorer la situation, il y en a très peu. Les inspecteurs ne veulent pas se commettre. Mm-hmm. Fait que, on est obligé d'avoir un ingénieur, puis d'avoir aussi un inspecteur-ingénieur qui est capable aussi de dire voici qu'est-ce que tu peux faire, voici ton plan de match. Puis un coup que tu vas faire ça, ben, ça va être conforme ou ce que tu vas éliminer 100% les risques de pouvoir te poursuivre. Ça dépend toujours de quelle façon que tu le fais aussi. Mm-hmm. Là, c'est M. Bricole puis qui botche sa job. Là, ça ne veut pas dire nécessairement parce qu'il y avait un plan qui est garant. Mais vous avez une expertise complémentaire qu'on ne voit pas régulièrement. Là, fait que, vous êtes très niché là-dessus aussi.
Oui, très niché beaucoup dans le résidentiel, dans la maison de monsieur, madame, tout le monde. C'est la façon dont c'est venu, cette idée-là d'incorporer ce volet-là, c'est que les jeunes nous appelaient et nous disent, écoutez, on a un problème avec notre maison, comme ça peut être n'importe quoi, par exemple une dalle de garage, une dalle structurelle, puis on a tellement de misère à mettre la main sur quelqu'un qui peut venir nous donner des bons conseils ou nous dire est-ce qu'on a un droit de recours quelconque là, pour la personne qui nous a vendu. Les gens étaient rendus des fois avec des ingénieurs du ministère des transports ou des grandes firmes de génie, puis ils veulent pas s'occuper de tout ça, c'est pas leur core business. Donc à force d'avoir ce genre de réflexion là des clients, on s'est dit bon regardez là, je pense qu'il y a un créneau à découvrir là-dedans, puis on va mettre ça en place, puis nous, ben on va les servir, ces gens-là, monsieur, madame, tout le monde, puis on va être là pour eux autres.
Quand même très cool, avec Michael Gauthier, ingénieur et inspecteur en bâtiment de Groupe Expert Québec. Merci à Fortin, notre commanditaire de notre show. Vous êtes à l'écoute de CJMD, l'alternative radio. Restez à l'écoute.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va acheter ton bloc. Nous.
Vous écoutez CJMD, Talk, Rock, Hip-Hop et Beat It Club.
Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. On parle avec Michael Gauthier, ingénieur et inspecteur en bâtiment de Groupe Expert Québec. On a parlé un volet un peu d'ingénierie par rapport à l'inspection, d'investigation aussi, mais revient aussi l'expertise légale et la contre-expertise légale. Puis souvent, on est un peu perdu à savoir c'est quoi, de quelle façon ça fonctionne, à quel moment qu'on implique un ingénieur ou tu sais quelqu'un qui va venir faire une contre-expertise ou une expertise sur une problématique. J'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu les grandes lignes sur, d'un, à quel moment qu'on a besoin de vous, puis de deux, c'est quoi les différentes étapes? T'sais, la première, ça va être un contact. Après ça, il va sûrement avoir un examen visuel. Puis après ça, on va faire justement des recherches. Fait que c'est quoi un peu le processus par rapport à tout ça? Puis dans quel cas ça s'applique?
Écoute, Jeff, j'en aurais long à dire là-dessus. Je vais essayer de me résumer vraiment à l'essentiel. Souvent, ce qui arrive, les gens... pour reprendre un exemple, je disais tantôt, il rouvre les murs, il voit des anomalies quelconques, il veut savoir ben, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, il faut qu'il revienne à qu'on ancien propriétaire ou quoi que ce soit. Souvent, il nous appelle. Bon. La première des choses, il faut bien évaluer la situation pour bien leur donner des conseils. On n'est pas, on s'entend, on n'est pas juriste non plus, on n'est pas là pour leur dire des conseils d'avocat. En plus, on va être capable de les aiguiller à leur dire. Ça vaut vraiment la peine d'appeler un avocat pour ça, ou sinon, regardez, c'est trop bénin, tout l'argent, l'énergie que vous allez mettre là-dedans. Appelez juste un entrepreneur, il va corriger ça, puis merci, bonsoir, vous allez pouvoir continuer à vivre comme si de rien n'était. Donc, la première chose qu'on fait, on communique bien avec le client, on leur demande certains documents, comme par exemple, quand est-ce ils ont acheté ou vendu la propriété, les rapports d'inspection qu'il y a eu, les déclarations du vendeur qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu d'autres rapports d'expertise. Donc, ça va nous donner un bon portrait de la situation, savoir bien, est-ce qu'on peut les aider, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, ou encore, on fait juste leur donner un conseil au téléphone, puis ça finit là. Donc, pour nous aussi, c'est important, il faut savoir bien dans quoi qu'on s'embarque, si on a d'affaires à s'embarquer là-dedans, parce que il y a différents problèmes, il y a différentes situations, donc on veut s'assurer dans quoi qu'on met le pied.
Ça peut être assez long aussi, un processus judiciaire. J'imagine que vous accompagnez vos clients du début à la fin avec des conseils. Parce que, tu sais, quand on parle d'expertise judiciaire, on parle souvent de contre-expertise. Fait qu'il faut être. Tu sais, ça ne doit pas être tout le temps évident non plus d'être challengé comme ça sur vos rapports.
Effectivement, qui dit expertise, souvent contre-expertise. Donc, si on est en demande ou en défense, on produit un rapport. Puis là, ben, il y a l'autre partie de son côté qui souvent fait produire un rapport d'expert aussi des fois. Mais ça ne veut pas dire que toujours c'est en contradiction. Des fois, ben, en tant qu'expert là-dedans, on est là pour dire les vraies choses. Mm-hmm. On ne peut pas mentir sur ce qu'on voit. Des fois, il faut donner raison à la partie adverse, mais on est là pour tenter de... pas de négocier, mais je veux dire peut-être amoindrir certains points. Comme bien souvent, la partie adverse, disons qu'il réprimande certains, il dénonce certains points, bien, il va avoir tendance à mettre la barre très haute pour les correctifs qui vont devoir être mis en place pour corriger ça. Bien, souvent, c'est pas nécessaire d'aller aussi haut que ça dans les correctifs. Peut-être que ça vaudrait la peine de faire tel autre correctif qui est beaucoup moins d'emploi, beaucoup moins exhaustif. Donc, on est là un petit peu pour trancher dans tout ça, pour apporter vraiment notre avis technique qu'on veut donner là-dedans.
Oui, oui, oui. Mais tu sais, il y a une question aussi de responsabilité, là, qu'on parle de vice caché, par exemple, puis qu'on commence à amener la chaîne de titre avec les 4 acheteurs successifs de l'immeuble. Là, c'est à qui la faute? Tu sais, ça ne doit pas tout le temps être évident, là, j'imagine. Je me mets à votre place de dire comment savoir, c'est quand l'élément déclencheur qui a amené finalement une grosse infiltration d'eau qui s'est juste empirée d'année en année. Il faut quasiment déterminer l'heure de décès.
Exact, mais il y a toujours une question de datation. Là. Quand il arrive une problématique, il faut savoir à quel moment que c'était, puis à quel moment que l'information a été créée ou produite. Puis après ça, ben, les propriétaires qui habitaient la propriété, là, étaient-ils au courant? Mm-hmm. Parce que veux pas, il peut avoir eu des traces aussi. Là.
Exact. Il y a 4 points fondamentaux. Là. Je ne veux pas jouer mon juriste aujourd'hui.
Faut que ça soit majeur.
Exactement. Il faut que ça soit assez majeur pour d'évaluer significativement la propriété. Il faut que ça soit
antérieur
à la transaction, donc déjà présent, que le préjudice existait d'abord. Inconnu du propriétaire et non apparent. Ça, c'est vraiment les 4 éléments de base pour savoir si vraiment vous avez des bonnes chances de recours en vice caché.
Exact.
Mais c'est ça, fait que c'est pas évident là, de dater là, l'événement là, pour savoir s'il était antérieur, surtout quand il y a eu plusieurs propriétaires successifs. Parce que moi, j'en connais des dossiers là, qui sont 5 vendeurs là, qui ont gardé chacun la propriété à peu près 2-3 ans. Puis là, il y en a qui n'ont pas fait de travaux, il y en a qui en ont fait. C'est à qui la faute? Là,
on devient messager dans le processus. Là, on sait que c'est pas nous, mais c'est peut-être les 2 avant nous. Mais là, il y en a 2 après nous. Fait que là, nous, on est le messager de la patente. Mm. Puis là, il y a un recours en titre que le dernier poursuit l'autre d'avant, lui d'avant poursuit l'autre d'avant jusqu'à temps qu'on se retrouve à la bonne personne. Fait que ça amène des sources de stress incroyables pour plusieurs personnes aussi. Là.
Exactement. Puis on sensibilise beaucoup nos clients là-dedans. On leur dit, regardez, nous, tout ce qu'on se limite, là, on vous appuie, on vous aide de manière technique là-dedans. Puis, à la limite, si vraiment c'était la faute de l'ancien vendeur, bien, la balle est redirigée vers lui. À savoir, après ça, est-ce que c'est l'autre d'avant ou le deuxième d'avant? C'est pas à vous de... C'est pas votre game. Nous, on fait lancer la balle à lui qui vous a vendu. Après ça, lui, s'il pense que c'était ultérieur à lui quand il a transigé, bien, c'est à lui de reprendre la balle-là puis de l'envoyer à l'autre. Donc, c'est... Voyez-vous, ça, on allège de beaucoup le fardeau à notre client. Là. Mm-hmm.
Mais tu sais, ça devient toujours un peu... vraiment stressant, puis c'est des éléments puis des situations qui sont qui font vivre des zones de stress incroyables. Parce que, tu sais, si on prend un expert pour venir donner son expertise par rapport à ça, c'est à cause que c'est majeur comme situation. Fait que, tu sais, c'est majeur. Il y a des fois, il y a une question de santé, il y a une question de travaux, il y a une question d'argent, tu sais. C'est des travaux qui peuvent représenter, par exemple, 80, 100 000. On n'a pas les reins financiers pour pouvoir faire la réparation par rapport à ça. Ça devient vraiment majeur. Il y a des fois que ça devient des situations urgentes aussi pour régler cette problématique-là. Fait que ça l'amène des couches de stress incroyables. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que des fois, il y a des combats d'experts qui vont faire en sorte que, tu sais, ah, ben, tu sais, moi, j'ai vu telle chose qui dit que c'est telle affaire. Puis après ça, il va y avoir un autre ingénieur à l'externe qui, lui, va venir. Des fois, ils viennent jamais contredire le rapport de l'expert, mais ils viennent amener un point de vue différent qui fait en sorte que le juge n'est pas capable, hors de tout doute, de prendre une décision pour venir trancher. Fait que là, puis toi, comme personne qui est lésée dans cette situation-là, ben, si le problème n'est pas réglé à 100%, ben, tu gagnes pas. Puis, tu sais, l'autre personne qui se fait poursuivre, ben lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est que s'il paye de l'argent, ben il gagne pas. Fait qu'il n'y a jamais personne qui gagne là, dans un litige comme ça. Puis après ça, tu as toujours le goût amer de savoir, tu sais, ouais, mais tu sais, si lui avait raison, que finalement c'était grave, puis que là, lui, le juge a tranché vers lui qui a adouci la situation, ben là, tu as comme un goût amer, comme de quoi que ça ne sera jamais réparé 100% sur comment que ça devrait être fait. On le vit actuellement sur une histoire de fausse sceptique. Trois experts différents, trois opinions différentes. Puis la cliente vendeuse, tu sais, la cliente acheteur qui est là maintenant, elle a dit, écoute, elle dit, je comprends, mais là maintenant, je me retrouve avec une fausse sceptique où ce qu'elle a une durée de vie qui est moindre. J'étais supposé de faire 25 avec, je vais peut-être faire du 15-20. C'est plus la même valeur par rapport à ça. Je vais avoir un dédommagement, mais qui paye, pour quelle raison, à quel moment? Tu sais, ça devient des beaux free-for-all. Ça doit être, ça doit pas être toujours joyeux en cours. Là.
C'est pas toujours joyeux. Puis c'est pour ça que des fois, c'est bon d'avoir un bon avocat aussi.
Oui, clairement. Là, ça, c'est sûr. Tu sais, spécialisé aussi en vis caché et tout. Parce que, tu sais, aussi, le risque, on parlait du stress, mais aussi, tu sais, il y a tout le temps le risque du vendeur d'être... jugé qui connaissait le vice puis qui a fait une fausse déclaration et là il est obligé en plus de payer des dommages intérêts là donc
avec le dol.
Ouais. Ben ouais, mais c'est ça, mais tu sais, puis là c'est pas évident là, mettons monsieur madame tout le monde a ouvert un mur un moment donné, puis l'expert vient dire que quand il a ouvert le mur, il aurait dû voir qu'il y avait de quoi qui était pas normal, puis là fait que dans le fond si tu avais dû le voir, tu le connaissais, donc tu étais de mauvaise foi de pas le déclarer, mais la personne était-tu de bonne foi, mauvaise foi, tu sais, c'est pour ça que je dis que tout le côté, c'est très délicat. Là,
puis après ça, tu as des situations aussi que c'est tes parents qui étaient là, tes parents étaient vieux, qu'eux autres, ils n'ont pas aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Il y a aussi la situation où ce que tu as fait venir un professionnel qui, lui, était supposé de faire la job, qui était payé au noir, mais que, tu sais, personne n'est au courant, on n'a pas de facture, on n'a pas de garantie. Fait que la responsabilité, même si on essaie de poursuivre cette personne-là, elle n'est pas poursuivable, elle n'est pas capable de payer de toute façon. Fait que la responsabilité demeure sur toi aussi. Fait que, tu sais, une des erreurs à éviter là, que tu pourrais nous donner, ça doit être ça, là, de faire affaire avec des professionnels tout le temps.
Ça l'aide de beaucoup.
Avec facture à l'appui, comme tu dis, parce que c'est vrai que du noir, peut-être ça, t'as pas cette belle responsabilité-là. Ouais. Puis c'est quoi les cas, là? Moi, j'aime ça l'entendre parler des pires cas que t'as entendu. Là. C'est quoi les cas qui vont nous faire faire des cauchemars cette nuit que t'as vu en cours, mettons?
C'est plus arrivé là, avec mon associé, avec Jean. Là, je sais que lui, il aime ça faire ce genre de mandat-là, puis il en a pogné quelques-uns là, dans sa carrière. Là. Quand il fait des expertises pour des proliférations de moisissures, il est déjà tombé sur des cas de présence de mérules pleureuses dans un bâtiment. Puis ça, pour ceux-là qui connaissent moins qu'est-ce que c'est, bien, c'est un type de champignon qui peut faire des dommages vraiment dévastateurs parce qu'il est comme des racines, là, puis il grandit, puis passe à travers tous les éléments de sature de bois de la maison, puis on peut ne pas toutes les voir parce que c'est vraiment dans les matériaux, puis ça peut ravager une maison au complet. À un moment donné, ça devient tout en putréfaction, fait que ça l'impacte de beaucoup la charpente de votre maison. Donc, quand c'est diagnostiqué avec un certain état là, de la mélurie pleureuse, ben, il est quasiment bon pour mettre à terre. Là. Justement, il a pogné des cas où le verdict, c'était vraiment « faut démolir la maison ». On est rendu là.
T'imagines-tu, pareil, tu vis cette situation-là, tu es avec ta famille, tu as été de bonne foi, tu as fait inspecter la propriété, l'inspecteur l'a pas vu. Oui, l'inspecteur, il a une assurance professionnelle, mais tu sais, d'un autre côté, il peut pas voir l'invisible non plus.
Non.
Fait que tu sais, ça devient difficile pour tout le monde de savoir qu'est-ce qu'il y en est. On vit une situation comme ça qui était inconnue de tout le monde. Puis tu sais, c'est qui la responsabilité de la mérule pleureuse, tu sais, dans le sens que je vends ma propriété, que j'ai habité là, que j'ai jamais su, moi, qu'il y avait de la mérule pleureuse, que j'ai jamais su que c'était une problématique, puis je vends ma maison, puis que finalement, le prochain acheteur s'en rend compte 3 ans plus tard, mais c'est sûr que c'est antérieur parce que, tu sais, ça se développe pas à toutes les semaines, tu sais, ça prend du temps avant que ça se développe.
Y a-t-il des signes précurseurs, tu sais, mettons pour un peu tous les problèmes, là. Là, c'est sûr, la moisissure, c'est assez évident, là, on va voir un spot moisi, là, c'est assez clair, mais tu sais, y a-t-il des cas que tu pourrais nous dire, ouais, mais faites attention à ça, s'il y a une odeur X, des choses qu'on aurait peut-être pas pris en compte, nous, comme monsieur, madame, tout le monde, mais que toi, tu le sais que c'est important?
Ben, déjà, tu parles d'odeur, déjà, il y en a qui vont dire, quand je descends au sol, il y a des odeurs, c'est l'humidité trop élevée. Bien, l'eau dans l'air n'a pas d'odeur. Hein. Si on sent quelque chose, c'est des micro-organismes qui sont présents quelque part. Donc, si on ferait un test d'air, puis on en fait chez nous, chez Groupe Expert, bien, c'est certain qu'on détecterait la présence de micro-organismes.
Mm-hmm. Puis, tu sais, il faut faire attention aussi de ne pas être alarmiste dans le sens que tout est problématique aussi. Là. Il faut tempérer ça aussi, là, parce que tu sais, il y a des composantes qui ont des effets naturels aussi. Là, quand on parle d'efflorescence dans le béton, où ce que tu sais, le sel minéral à l'intérieur du béton va sortir du béton par capillarité à cause de l'eau, ben tu sais, c'est un processus qui est normal. Qu'est-ce qui est anormal, c'est que si tu sais, dans le béton, le taux d'humidité est vraiment, 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 vraiment tout le temps très grand, puis que ça fait en sorte que là, on a des sources de... Puis là, tu sais, ça va dépendre toujours des situations fois mille, là, tu sais. Puis je veux pas dire que tout est normal, tout est simple. Il faut toujours regarder. Puis, tu sais, il y a une mise en contexte qu'il faut comprendre aussi. Mais, tu sais, si jamais tu te promènes et tu as besoin de ski pour aller au sol tellement que tu as de l'efflorescence, ben là, tu sais, c'est une problématique. Mais il y a des fois, à certains moments, à certains endroits, puis souvent, ça va être des signes où ce que ton drain fonctionne pas correctement parce que, tu sais, tu as de l'efflorescence sur aucune partie de ton mur, sur la partie supérieure, mais à la hauteur de ton drain, bien là, tu te rends compte qu'il y a de l'efflorescence ou ce que le sel minéral de ton béton se fait expulser du béton, fait que ça fait des traces blanches, une genre de poudre blanche. Bien là, tu es capable de le voir. Ça te donne un signe que ça se peut que ton drain soit problématique. Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je dis?
Absolument.
Fait que, tu sais, j'ai pas ma licence d'ingénieur, mais c'est des sujets qui m'intéressent.
Ouais. À force de côtoyer des inspecteurs, ça s'en vient pas pire.
Ouais, exact. Mais tu sais, c'est sûr que j'étudie en architecture aussi. Ça fait quand même 13 ans que je suis dans l'immobilier. Je suis une personne qui est ultra passionnée. Fait que c'est sûr que je m'intéresse à ça aussi.
Mais tu sais, l'important, c'est de consulter, comme on dit, des experts, mais rester quand même à l'affût des signes. Puis tu sais, ça vient avec les... dans la vie d'être à l'affût des signes. C'est pas tout le monde qui est bon là-dedans. Là. On pense aux gens qui traînent des cancers pendant des années avant de se faire soigner, qui ont des problèmes de santé qui s'en rendent pas compte. T'sais, je pense que c'est autant important d'écouter son corps que regarder sa maison, ses propriétés, d'être à l'affût des signes, là, quand même.
Juste pour ajouter, justement, c'est un petit peu la somme des signes qui va faire un peu qui va nous indiquer qu'il y a vraiment un problème puis la criticité du problème. Si une personne voit, tout d'un coup, une fissure qui apparaît au plafond, est assez mince, assez rectiligne, OK, peut-être que ça vaudrait juste la peine de faire un log, on la note, on prend la photo, etc., on continue à vivre comme si rien n'était. Mais là, ce crime, si elle continue à grandir, il y en a une autre dans un autre coin qui apparaît tout d'un coup, elle n'est pas rectiligne, elle est plus lézardée. Peut-être qu'à un moment donné, là, il va y avoir des questions à se poser. La somme des petits éléments qu'on voit, là, écoute, il semble de quoi d'avoir quelque chose d'actif, là, ça vaudrait peut-être la peine d'appeler quelqu'un.
Puis, tu sais, il y a aussi des choses, puis je veux pas dire que c'est normal encore, puis je veux pas banaliser, là, mais tu sais, il y a très peu de béton, de construction, de fondation qui n'ont pas de fissures. Tu sais, il va toujours avoir des fissures de retrait. Le béton est rempli, puis est imbibé d'eau. Puis on dit qu'il sèche parce que le béton, l'eau s'évapore du béton. Puis des fois, tu sais, dans le bas des fenêtres, il va y avoir des fissures en oblique qui vont se faire sur les coins des fenêtres parce que le retrait, c'est une partie qui est plus fragile. Fait que, majoritairement, ça va craquer. Mais ça ne veut pas dire parce que c'est craqué que l'eau rentre aussi. Faut être vigilant. Faut faire de l'entretien. Faut éviter que l'eau rentre. Puis tu sais, la problématique que l'eau se ramasse dans la fissure, c'est pas grave. C'est quand que l'eau, elle se ramasse dans la fissure puis elle gèle, Puis là, elle gonfle, bien là, ça, là, c'est là que ça crée des problématiques aussi. Puis tout ce qui est des problèmes de cisaillement dans les fondations, tu sais, une fondation qui vient se cisailler où il y a un dénivellement en hauteur ou un dénivellement en largeur, tu sais, bien, c'est pas un dénivellement, là, mais tu sais...
Un décalement.
Un décalement où tu sais, tu as le tassement du sol qui pousse sa fondation, la fondation casse, puis là, tu as une version de la fondation qui est plus à l'intérieur, l'autre qui est plus à l'extérieur. Bien, c'est des problématiques plus majeures, ça. Puis ça, c'est important... de le prendre. Puis, tu sais, souvent dans les murs de fondation, les fissures horizontales, là, c'est jamais bon signe. Là. C'est jamais, jamais, jamais bon signe. Si jamais vous voyez ça, c'est des éléments ultra importants à prendre en considération. Michael, écoute, pour vrai, ça a été un plaisir de te recevoir à la Bulle immobilière. Michael est ingénieur, inspecteur en bâtiment chez Groupe Expert Québec. Si on aimerait avoir ton expertise, on aimerait communiquer avec toi, de quelle façon qu'on peut le faire?
Sur notre site web, c'est tout le plus simple. Donc, groupeexpertquebec.com. Bon, je vois pas souvent c'est .com ou .ca, là. En tout cas, marquez juste Groupe Expert Québec, là. Vous allez tomber dessus.
Parfait. Puis, écoutez, vous êtes à l'écoute de la Bulle immobilière. Vous avez écouté notre émission. J'espère que tu as aimé ta présence avec nous.
Ben, absolument. Vous êtes vraiment cool. Deux chic types. Puis
super. Ben écoute, on apprécie. Merci. On apprécie énormément. Pour la Bulle immobilière, c'est toujours diffusé le samedi à 11h, juste après le jargon, mais juste avant Zone parallèle. Manquez pas le bingo ce dimanche, 3 000 $ en prix avec Chico et sa gang. Bonne journée tout le monde.
Bye bye.
La Bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Oui, ils veulent acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes!
Des opinions, du real talk, du gros fun.
La station qui vous représente pour vrai.
Suivez-nous sur YouTube.
96.9.
L'Alternative Radio.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.